Ce matin sur le plateau qui parle, Nicolas Seub, enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs ENSA de Brest, spécialisé dans l'hydrographie et qui se trouve depuis la semaine dernière à Offel avec 52 étudiants de Bretagne, d'Allemagne, de Belgique et de Trinidad et Tobago. Le but du séjour qui se déroule jusqu'à la fin de cette semaine sur le lac de Vassivière est que les étudiants s'exercent à mesurer les fonds aquatiques. Ils travaillent sur deux bateaux, sur le lac et à pied aux alentours. Nicolas Seub nous explique ce qu'ils ont observé au fond du lac, ce qui a été enseveli lors de la création du barrage par EDF après la Seconde Guerre mondiale. Il nous explique aussi que ces étudiants ne devraient pas avoir de difficultés à trouver du travail, puisque les entreprises d'exploration pétrolière et de construction d'éoliennes et d'hydroliennes offshore ont beaucoup besoin d'hydrographes. On écoute donc Nicolas Seub.
Alors on préfère venir avec des étudiants expérimentés pour qu'ils aient un petit peu d'autonomie dans leur projet. Ce ne soit pas un projet où on les tient par la main, c'est pas vraiment de l'apprentissage. Là, on les laisse très très autonomes. Et donc ils évoluent sur le lac en fonction d'objectifs qu'on leur donne. Et ils doivent gérer leur projet, s'organiser au niveau du matériel, planification, des ressources. Et comme le lac est grand, parce que c'est très grand Vassivière, 1000 hectares de plan d'eau, il y a 50 km de berges. Et donc pour nous c'est très intéressant, parce que justement il y a une logistique qu'il faut prendre en compte pour être efficace. Quand on a un groupe d'élèves déployés à l'autre bout du lac, s'il a oublié un câble ou une bêtise comme ça, alors revenir, perdre la matinée. S'il est parti sur un bateau, c'est la même chose. Donc c'est vraiment... Le contexte est très favorable pour ça, et puis il est aussi favorable pour tout ce qu'on trouve dans le lac. Les ruines de maisons, les gens qui racontent qu'il y a des cloches qui sonnent. Là, il n'y a pas d'église. Non. Il y a deux fermes, il y a un petit village, il y a un moulin, il y a des ponts romains, il y a des murs de prairies qui sont encore là. Donc on a vu tout ça avec les sonars et les sondeurs. Il y a des fûts de troncs d'arbres, il y a des choses.
Ces fonds, c'était pas des fonds il y a 50 ans.
C'était des prairies, des routes.
On n'a pas de carte de l'époque, on a
si.
Pas. Alors, c'est on les refait.
C'est là l'intérêt.
On a comparé la première année, on a fait cette comparaison. On avait été chercher des cartes sur le site de l'EGN, des cartes d'état-major de l'époque. Où on voyait encore les lieux dits. Et donc on avait superposé les cartes d'état-major de l'époque avec les cartes bathymétriques qu'on avait. Alors évidemment, comme on n'utilisait pas les mêmes systèmes géodésiques, c'est pas exactement superposé, mais on retrouve grosso modo l'emplacement et les restants des ruines, des ouvrages qui étaient à l'époque. On voit au pied du barrage, on voit les traces de la construction, les routes qui avaient été aménagées pour le chantier. On voit les anciennes routes, on voit pas mal de choses. On voit le lit de la rivière.
La Moule.
On voit le canal qui amène l'eau vers la prise d'eau, là. À côté de l'île de Serpent, là, il y a un canal, une espèce de canal damné sous-marin, mais qui apporte l'eau fraîche vers la conduite forcée EDF. Même EDF avait oublié son existence. On aura rappelé qu'il y avait ce canal qui avait été fait, et qui aide bien à la circulation de l'eau du lac. J'ai aussi étudié aussi l'évolution des thermoclines dans le lac. Des couches d'eau froide et d'eau chaude dans le lac. Pour les gens qui croient que les retenues hydroélectriques réchauffent l'eau, ce qui n'est pas vrai, puisqu'en fait les entrants se rentrent par cisaillement sous l'eau chaude. Pour l'eau froide qui rentre dans le barrage, par les rivières, plonge en dessous de l'eau de surface qui est chaude dans laquelle on se baigne l'été. Alors l'eau qui vient des ruisseaux, elle est toujours... En gros, à la température des sources, donc la température du sol, c'est environ 8 ou 9 degrés.
Donc elle arrive dans le fond.
Donc elle arrive, et dès qu'elle arrive dans le lac, elle passe en dessous de cette eau chaude et elle continue à couler dans l'ancien lit de la Molde. Et quand l'EDF turbine, en fait, c'est cette eau froide qui est amenée vers l'usine de Perra, et c'est pas la couche d'eau chaude qui est en surface. Et puis après, la couche d'eau chaude, elle va gentiment se refroidir l'hiver, elle va geler, et puis voilà.
Du point de vue du refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux qui est en aval, c'est quoi du coup qui est utilisé? C'est le chaud ou le froid?
C'est toujours de l'eau froide quand tu reviens. C'est toujours de l'eau froide, puisque l'eau on la prend du fond. La prise d'eau elle est à je sais plus, 22 mètres de profondeur à peu près. Et le pied de barrage étant à 35 mètres.
Et du point de vue de la recherche scientifique, là c'est un exercice pour les étudiants?
Nous c'est un exercice technique. On utilise ça pour la formation en hydrographie. Mais on n'a pas du tout la prétention à en tirer des conclusions environnementale. Ce que je viens de vous dire au sujet de la circulation de l'eau, c'est simplement une évidence qui s'impose quand on a observé la structure du lac. Mais on n'en tire aucune conclusion. On n'est ni chimiste de l'eau, ni spécialiste de la vase organique. Nous, on fait des mesures, topographie, bathymétrie, mais ça s'arrête là. On a même fait une carte nautique du lac.
Une carte nautique, on voit quoi ?
Une carte marine, une carte au format de carte marine. Voilà, comme si on avait des cartes des côtes pour la navigation, les entrées de port, etc. Donc on a repris les outils logiciels de cartographie marine qu'on a appliqués au lac de Vassivière, en mettant un niveau de référence, plutôt d'avoir le zéro hydrographique, qui est le niveau des plus basses mers, en gros, en simplifiant. Nous, on a mis ça au niveau du plus bas lac, plus fixé par EDF, qui est 643 mètres.
Et là, il est à quelle hauteur par rapport à 643?
Il doit être à 648, là.
Et ça varie entre combien?
Au maximum 650, parce qu'après, ça se déverse. On ne peut pas monter au-dessus. Après, EDF, je crois que c'est entre 650 et 633, la côte d'exploitation. Ils peuvent descendre jusqu'à 633. Ils ne le font jamais, mais ils ont le droit.
Est-ce que vous pouvez replacer ce qui se passe ici dans le cursus de ces ingénieurs en formation, ce qu'ils viennent faire et ensuite ce qu'ils feront dans leur profession?
Ce qu'ils viennent faire, ils viennent faire de la... En hydrographie, on a besoin de formation pratique. Ce n'est pas uniquement de la formation dans une salle de classe. On a besoin de formation sur le terrain, de manipulation des équipements, déploiement des équipements sur un navire. Et c'est des ingénieurs qui doivent être spécialement autonomes. Puisque, par définition, quand ils seront amenés à opérer sur des terrains qui ne sont pas forcément sur le territoire national, ils peuvent être déployés partout dans le monde, ils vont être par nature isolés. Ils seront dans un pays sans infrastructure. Ils seront sur un navire. Et une fois qu'on est sur un navire hydrographique, on doit se débrouiller. On leur apprend cette autonomie. Les stages pratiques, c'est aussi pour leur apprendre à se débrouiller et à faire face à des situations vraiment très, très, très concrètes. On manque de diplômés. Ça, c'est intéressant de le savoir. Il y a un certain nombre de niches comme ça dans l'enseignement supérieur où certaines spécialités manquent cruellement de diplômés. Au niveau de la couverture des zones maritimes qui sont cartographiées, on a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Et autant les services étatiques que l'industrie a besoin du diplômé. Donc là, nous, on s'efforce de former ces diplômés, de les attirer. C'est intéressant, je pense, pour le public de savoir qu'on a vraiment besoin d'hydrographes. C'est vraiment une profession qui est en totale pénurie. Nos élèves sont embauchés largement avant leur diplôme. Ils ont déjà signé tous des contrats. On a une demande énorme, énorme, énorme d'hydrographes.
Vous avez dit que vous allez retrouver dans des pays sans infrastructure.
Des pays sans infrastructure au niveau géographique et géodésique. Par exemple, tous les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient, certains pays d'Amérique du Sud, quoique au niveau géodésique, c'est à peu près propre. Les Caraïbes, les îles du Sud-Pacifique, ces pays où il n'y a absolument rien. Enfin, il y a des hôtels, il y a des ports, mais il n'y a pas d'infrastructure géographique structurée. Donc là, les gens vont devoir tout faire, partir de zéro. Comme si on partait ici, au lac de Vassivière, et qu'on soit incapable de trouver une borne d'hygiène. Parce que l'hygiène locale n'a pas été encore inventée et il n'a pas fait encore son boulot.
Donc, les industries demandeuses d'hydrographes, c'est lesquelles principalement?
C'est les industries de l'offshore pétrolier, l'offshore de l'énergie renouvelable, hydrolienne ou éolienne offshore. C'est l'industrie de l'aménagement côtier, du dragage, la construction portuaire, l'industrie de la cartographie aussi. Une variété de débouchés qui sont assez énormes entre la production d'énergie, la recherche d'énergie et le transport maritime. La capacité mondiale n'arrive pas à fournir le nombre de diplômés, en particulier en Europe.
Pourquoi vous attribuez ça, le fait que vous n'avez pas d'hydrographe?
C'est un petit peu la même raison pour laquelle il n'y a pas assez de géographes. On a le même souci à l'École nationale des sciences géographiques. Pas assez de diplômés, c'est des carrières qui ne sont tout simplement pas connues. Quand on veut être ingénieur, on rêve de piloter un avion, de faire l'aéronautique, ou d'en construire. Mais les sciences géographiques, elles ne sont pas valorisées au lycée. En général, la géographie qu'on apprend au lycée, au collège, n'a rien à voir avec la géographie physique qu'on apprend ensuite. Donc on a une vision déformée de la géographie. les élèves voient la géographie comme un truc...
Un truc has-been.
Voilà, mais has-been. Un peu très littéraire, très plus sur, qui joue sur le côté humain, économique et littéraire, et pas du tout géographie physique, que nous, on enseigne et qu'on utilise. Et c'est des carrières qui sont extrêmement intéressantes, on voyage, les carrières sont variées, on vient à Vassivière, au mois d'octobre, avec un soleil radieux, faire des levées sur le lac.
Ce matin, sur le plateau qui parle, c'était Nicolas Seub, enseignant-chercheur en hydrographie à l'école d'ingénieurs ENSA de Brest, qui passe actuellement 2 semaines à Offel et sur le lac et autour du lac de Vassivière pour des exercices de mesure des fonds aquatiques avec une 50aine d'étudiants. On se retrouve demain à 7h30 pour une nouvelle édition du plateau qui parle. Vous pouvez écouter et télécharger ces émissions sur radiovassivière.com, émission Le plateau qui parle.